Otep, vous écoutez Je peux pas, j'ai thérapie, le podcast dédié à la promotion du bien-être mental des femmes et des filles afrodescendantes. Je m'appelle Jessica Galland et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Alors, cette période est particulière, hein, ça, on le sait. Alors, je pense qu'il est important qu'on ait à l'esprit que notre seul challenge pendant cette période troublée est de sortir de cette crise en bonne santé. Disons-le franchement, il n'y a pas de bon ou de mauvais confinement. Chaque personne vit cette situation exceptionnelle comme elle le souhaite et comme elle le peut. Sachez que vous pouvez vous permettre de ne pas être productif si vous n'arrivez pas à l'être, tout simplement. Notre priorité est avant tout de prendre soin de nous et des nôtres et de nous préserver au maximum des sources de stress inutiles. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement. Je vais vous chuchoter quelques détails sur moi. À l'oreille. On est d'accord, hein, il aurait été peut-être pertinent de commencer par me présenter. Eh bien, figurez-vous que cet épisode sera justement celui dans lequel je parle un peu plus précisément de moi. Le fait que je n'ai pas commencé par le commencement, c'est-à-dire par vous dévoiler un peu plus sur moi, ce que je fais dans la vie, ce qui m'anime, ce que j'aime, etc., dit de moi une chose. Je suis une femme qui fait les choses au feeling. Ça tombe bien, parce que j'avais envie que vous le sachiez. Alors oui, je suis très intuitive, et dans la vie, mes intuitions me guident énormément et me trompent rarement. Je vais commencer par vous dire que je m'appelle Jessica Galland, j'ai eu 38 ans le 6 avril dernier, finalement un anniversaire confiné, dont je me rappellerai, je pense, toute ma vie. Concernant mon prénom, je ne serais pas tout à fait transparente avec vous si je ne vous disais pas que je m'appelle également Bénédicte. Alors, pour tout vous dire, sur ma carte d'identité, mon premier prénom est Bénédicte, le deuxième Jessica, la faute à une inversion de l'état civil. Mais dans ma famille, on m'a toujours appelée Jessica, et Jessica, c'est bien le prénom que je donne spontanément quand on me demande comment je m'appelle. Quoique non. Quand on me pose la question dans les administrations ou au travail, je réponds Bénédicte. Bref, non, promis, je ne cherche pas à vous embrouiller, appelez-moi Jessica, car c'est véritablement ce prénom qui chemine avec moi au quotidien depuis ma naissance. Ce qui m'anime le plus dans la vie, à part mes filles, c'est la femme noire, c'est l'empowerment au féminin, le développement personnel, cette notion de sororité que j'ai, hein, chevillée au corps, plus les années s'égrènent, le partage, les cultures afro, oui, parce qu'elles sont multiples et tellement riches, le gros cas, plus que de la musique, des chants, des danses, cette pratique guadeloupéenne, je trouve qu'elle renforce l'identité et procure un sentiment de valorisation collective et de fierté individuelle en portant des valeurs de convivialité, de résistance et de dignité. Donc oui, j'aime beaucoup cette musique et quand je l'entends, il se passe un truc en moi d'indescriptible, mais tellement fort que c'est impossible à décrire. Mais tout ça combiné me rend véritablement puissante.
Gilo, gilo, aïe, 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 laissez-moi aller, gilo.
Aujourd'hui, je suis la maman de deux adorables petites filles, Chiara, 9 ans et demi, et Garance, 3 ans. Je suis une maman comblée et à l'affût de toute information susceptible de m'élever dans mon rôle de mère. Je ne suis ni une femme parfaite, ni une mère parfaite, mais j'ai appris à m'aimer avec mes imperfections et j'ai arrêté de courir après cette utopie qu'est la perfection pour vivre pleinement l'instant présent. J'ai appris à être, tout simplement, dans le sens philosophique du terme, et depuis, ma vie a cette saveur indescriptible, mais tellement grisante. Dans la vie, je travaille au sein d'une compagnie d'assurance depuis près de 15 ans, et j'ai exercé de nombreux métiers. Chacun de ces métiers m'ont fait grandir et m'ont apporté beaucoup de satisfaction personnelle. Cette compagnie d'assurance m'a accompagnée et m'accompagne encore et j'ai énormément de gratitude, de reconnaissance pour cette entreprise qui m'a fait grandir et rencontrer des personnes incroyables. Mais aujourd'hui, j'arrive au bout de quelque chose et je ne trouve plus de sens à ce que je fais dans mon métier actuel. Il est donc temps pour moi de réinventer ma vie professionnelle et c'est ce que je vais m'employer à faire ces prochains mois. Sinon, je suis curieuse, idéaliste et un peu naïve parfois malgré mes 38 ans. J'aime la bienveillance, les gens bienveillants, ça va de pair. Je suis une grande timide, mais je me soigne. J'ai 50 idées à la fois, c'est stimulant, mais ça peut être problématique. Au quotidien, j'essaie de cultiver l'audace, le partage et l'entraide. Sinon, j'adore le luxe. Non, pas ce luxe-là. Le hors sentier battu, le hors conventionnel, le hors du commun, le hors tout. J'aime les beaux objets, l'art sous toutes ses formes, les matières nobles, le beau bois, la belle porcelaine, chiner des pièces vintage, dormir dans des draps en lin ou en coton égyptien. J'aime le bon vin, la cuisine caraïbéenne, antillaise, africaine, française, italienne. J'aime le bon saucisson. Bon, ok, je suis complètement accro du saucisson. Je suis flexitarienne, mais idéalement, je vise le véganisme. Bon, c'est pas gagné, mais je pense que j'y arriverai un jour. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire de belles rencontres humaines sur le web et ailleurs. Du haut de mes 38 ans, je me rends compte que je n'ai jamais été aussi épanouie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Après avoir passé 18 ans de ma vie en Guadeloupe, j'ai souhaité rejoindre la métropole, comme on dit chez nous, pour poursuivre des études d'histoire et de géographie. J'avais un impératif besoin de liberté et surtout j'avais une folle envie d'expérimenter la vie parisienne. Dans mon imaginaire, Paris c'était une ville mythique, une ville magique. La ville de toutes les richesses, au sens propre comme au sens figuré. Quand j'évoque la richesse de Paris, je pense surtout au domaine culturel, architectural, ethnique. J'avais cette soif irrépressible de m'ouvrir aux autres cultures, de faire toutes sortes de découvertes, et j'ai effectivement fait le plein de belles rencontres. Je me suis cultivée, j'ai aussi eu de grandes désillusions. Eh oui, la nature humaine m'a trompée, trahie. Ma naïveté a été ma pire ennemie, mais toutes ces expériences m'ont fait grandir. Après 18 ans passés à Paris, j'ai décidé de partir, sans regret, car j'avais besoin d'autre chose et mes priorités avaient changé après la naissance de mon deuxième enfant. Le décès d'un proche a été le détonateur. Je ne voulais plus passer à côté de ma vie. Donc ma vie était somme toute satisfaisante, un boulot qui me plaisait, des collègues devenus mes amis, que je prenais plaisir à voir chaque jour, une entreprise à laquelle j'étais attachée, Et en plus, je vivais dans un petit village tout à fait agréable, hein, qui s'appelait Saint-Nom-la-Bretèche. Bref, mais à côté de ça, j'avais près de 3 heures de trajet par jour, et c'est autant de temps que je ne partageais pas avec ma famille. J'étais devenue une fatiguée chronique, et je passais mes journées à dormir pour récupérer de ma semaine. Donc, c'était pas la vie que je voulais, et donc j'ai décidé de réinventer ma vie dans une autre ville, et j'ai choisi Nantes. Avant de poursuivre sur le présent, revenons un peu en arrière, à l'époque où la Jessica, 18 ans, a débarqué à Paris. Non, n'exagérons pas, c'était pas il y a si longtemps. Non, à cette époque-là, on passait plutôt ça. Avec le recul, je me rends compte, à présent, que venir en France hexagonale a été pour moi un traumatisme. Je venais de Guadeloupe, où les Noirs sont en majorité, pour rejoindre un pays avec une majorité de Blancs et de nombreuses minorités. Finalement, rejoindre la capitale parisienne a été un processus bien plus traumatisant que je ne le croyais. Je n'étais plus une personne, tout simplement, mais j'étais devenue une personne noire. Donc d'un coup, je suis passée de la jeune fille de 18 ans que j'étais en partant de la Guadeloupe à une jeune fille de 18 ans, noire, considérée comme une minorité. J'ai eu cette désagréable impression d'avoir été dépouillée de tous mes privilèges. Je faisais désormais partie de la frange de la population la moins privilégiée. Je n'étais clairement pas prête à faire face au racisme ordinaire et aux clichés sur les Antillais.
Bonjour Madame Gentil. On a appris pour votre mari, hein. Condoléances. Vous venez pour la pension veuvage. Oui, je comprends bien, d'accord, mais vous avez rempli les feuillets A2, A3 nécessaires à l'obtention des diverses prestations auxquelles vous avez droit, calculées sur le taux du ticket modérateur. Vous l'avez fait, ça? Comment ça, c'est ma collègue? On a un problème, là. Je vais demander, hein. Marie-Thérèse!
Bon, j'ai appris que je ne savais pas prononcer les R, que mes congénères n'étaient pas très dynamiques, hein, pour ne pas dire autre chose, que les administrations étaient truffées d'Antillais nonchalants et peu aimables, que les Antillais n'étaient pas les rois de la ponctualité. Mais à côté de ça, hein, les Antillais sont très sympas, joviaux, toujours prêts à faire la fête, à rire, de vrais bouts en train. Une fois, on m'a dit « Tu es sûre que tu es Antillaise ? Parce que toi, tu es douce, tu as un tempérament facile, alors que toutes les femmes Antillaises que je connaisse sont caractérielles et gueulardes. Elles sont tout le temps énervées et cheap en permanence. » Waouh ! Tous ces clichés sur les Antillais me donnaient le tournis. À cela s'ajoutent les difficultés d'intégration, hein, parce que oui, il a fallu que je m'intègre à cette nouvelle société que je venais de rejoindre. S'intégrer, un concept tout nouveau pour moi. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mot ? Bon, j'avais décidé de retenir une définition très simpliste. S'intégrer, c'est vivre ensemble. Ok, fastoche, il n'y a pas de raison pour que mon intégration soit difficile. N'oubliez pas, je vous ai dit que j'étais très naïve à l'époque, et encore un peu aujourd'hui. Les gens que je côtoyais, de près ou de loin, donc les non-antillais et les blancs, voyaient les Antillais d'une certaine façon et attendaient que je sois la parfaite représentation des clichés véhiculés sur les Antillais. Autant vous dire que c'était pas si simple, hein, de se construire en tant que jeune adulte, dans ce contexte, qui pour moi devenait de plus en plus hostile. Je me sentais vulnérable en permanence, et ça commençait à devenir de plus en plus difficile de se lever le matin. J'avais envie d'être à l'opposé de tous les clichés sur les Antillais, et en même temps, j'avais envie d'être l'Antillaise qu'on attendait que je sois. Parce qu'en réalité, c'est bien ce que j'étais, une Antillaise à Paris. De plus en plus, mon besoin d'appartenance se faisait sentir. Je recherchais cette identité antillaise que j'avais l'impression d'avoir laissée en Guadeloupe. À 18 ans, c'est loin d'être un âge facile. Ta famille et la société te demandent d'être adulte, alors que toi, tu sors à peine de l'adolescence. C'est une période charnière hein, qui marque le début d'un cheminement vers l'âge adulte. C'est une période de construction où ma seule préoccupation aurait dû être mes cours. Et à côté de ça, le questionnement habituel sur le sens de la vie. Au lieu de ça, j'avais l'impression de me battre en permanence contre des micro-agressions systémiques. La vie parisienne m'épuisait. Et c'était pas tout, hein, puisqu'à cela s'ajoutaient les problèmes courants que peut rencontrer une jeune fille. L'adolescence, ou la période post-adolescence, c'est une période capitale marquée par la construction de soi. On passe donc par des étapes importantes et parfois difficiles. Cela se fait souvent sans y penser, mais parfois cela pose des problèmes qui peuvent sembler insurmontables. Quand on est jeune adulte, on fait face à des défis comme construire son identité propre. Donc pour ça, il faut trier hein, entre ce qu'on garde et ce qu'on laisse de l'éducation qu'on a reçue de ses parents, en s'appuyant sur les rencontres et les expériences de la vie qu'on fait. On est amené aussi à construire des relations amicales ou amoureuses. On fait face à ses premiers émois amoureux, à ses premières ruptures, à ses premiers chagrins d'amour. On découvre la sexualité ou encore son orientation sexuelle. Est-ce qu'on est hétérosexuel, homosexuel, bisexuel ? On doit choisir une orientation, une formation, décider de poursuivre des études ou pas, décider de chercher un emploi. Bref, c'est à la fois une période enviable de la vie, car le monde s'ouvre à nous et les possibilités que nous offre la vie est multiple. Mais à côté de cela, il y a les écueils de la vie qui participent à notre construction. Parfois, on a des ressources pour les surmonter, mais parfois, on a besoin d'aide de la famille ou d'amis, et pourquoi pas d'un thérapeute. J'aurais aimé que ce dernier choix soit une option évidente pour moi à l'époque. En vrai, j'avais juste envie d'être moi, Jessica Galland, une jeune fille venue étudier et se confronter à la vie parisienne. Quelle bouffée d'air fraîche, mes premières vacances d'été en Guadeloupe. Je sais que mes semblables antillais comprendront aisément les émotions qui m'ont assaillie lors de mon premier retour en Guadeloupe. Un véritable exutoire, j'avais l'impression de redevenir moi. À la descente de l'avion, je n'avais plus de couleur de peau et je me contentais d'être, tout simplement. C'était 2 mois de liberté dans ma tête, plus besoin de porter un masque, je savourais tout. La Guadeloupe ne m'avait jamais paru aussi belle et aussi riche. Je ne me suis jamais confiée sur ce que je ressentais, ni à mes proches, ni à mes amis. Avec le recul, j'aurais dû en parler. Le temps des vacances était terminé. J'ai quitté avec regret ma famille. Non, plus que ça, je quittais ma famille vraiment en pleurs, secouée par les larmes. Et le retour à Paris était très difficile. Les journées devenaient grises à l'extérieur comme à l'intérieur de moi. Je passais les jours suivants mon arrivée au lit. Je n'avais envie de voir personne, et ce pendant des jours, voire des semaines. Je m'enfermais sur moi-même, j'éteignais mon portable, je ne mangeais plus. C'était sans compter sur ma voisine d'étage, étudiante guadeloupéenne comme moi, que je connaissais bien, car on venait de la même ville et du même lycée en Guadeloupe. Très souvent, elle sonnait sans crier gare. Elle insistait quand je ne voulais pas ouvrir, et elle avait toujours une pêche d'enfer. Elle suivait un cursus sport-études en travaillant parallèlement, et je la trouvais dynamique, lumineuse et trop drôle. Bref, c'était mon rayon de soleil de l'époque. Elle arrivait toujours comme une tornade et se donnait la permission d'ouvrir l'unique volet de ma chambre et criait « Lève épicé ici, dans !» Une expression très familière antillaise qui veut dire littéralement « Réveille-toi pour aller faire pipi ». J'ai beaucoup de gratitude pour elle, car plus d'une fois, elle m'a aidée à reprendre ponctuellement le dessus. Et pourtant, j'avais un tas de symptômes qui pouvaient effectivement faire penser à la dépression. Mais comme je n'étais pas éduquée à ça et sensibilisée à tout ça, je n'avais aucun moyen de m'en rendre compte. Par exemple, j'avais clairement une diminution de mon appétit, hein, j'avais perdu beaucoup de poids. D'ailleurs, je me rappelle, mon oncle me disait « Mais tu es devenue rasta ou quoi ?» Sous-entendu que je fumais. J'avais des maux de tête en permanence, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais vraiment un manque d'énergie probant, je dormais beaucoup, hein, beaucoup plus que d'habitude, je n'avais envie de rien. Hein. Le fait lire mes cours, c'était compliqué, hein, j'avais du mal à me concentrer, bref, je n'avais plus le goût de rien. La santé mentale se définit comme étant un état de bien-être dans lequel un individu peut réaliser son propre potentiel et faire face aux situations normales de la vie et au stress qu'elle génère. À ces périodes, hein, mon état de santé mentale était à l'opposé de cette définition. Faire des courses était une activité normale à laquelle je ne pouvais pas faire face. Je me suis donc débattue avec moi-même et je me suis frayé un chemin entre les affres de la dépression. À cette époque, j'aurais aimé être sensibilisée sur le sujet de la santé mentale. J'aurais aimé évoluer dans un milieu qui ne nie pas la dépression et les autres maladies mentales. J'aurais voulu consulter un thérapeute et parler sans me censurer des problèmes de race et de racisme. Avoir un espace sécurisant pour discuter avec des personnes faisant face également à des problèmes similaires. À cette époque, je n'avais pas encore vécu le racisme de plein fouet. Non, le racisme que je vivais était un racisme vicieux et donc plus insidieux. Mais au lieu de ça, je me suis débattue avec cet état qui était tout sauf normal. C'est comme vivre en permanence avec une migraine sans penser un seul instant à la soigner. C'est handicapant au quotidien. À travers mon témoignage, je souhaite remettre à l'heure les pendules sur la dépression, notamment chez la femme noire, parce que la dépression n'est pas simplement le fait de ressentir un coup de blues, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on doit supporter pendant des semaines, des mois ou des années, ce n'est pas non plus le signe que vous n'êtes pas assez forte. La dépression, c'est un problème de santé mentale qui doit être affronté et traité comme n'importe quelle maladie. À divers moments de ma vie, j'ai eu à me débattre avec les difficultés de la vie comme tout le monde. Si au début de ma vie d'adulte, je n'ai pas eu l'opportunité de me faire aider, accompagner ou de suivre une thérapie, j'ai eu d'autres occasions de faire appel à des thérapeutes à d'autres moments de mon existence. Ma première expérience avec un thérapeute m'a été vivement conseillée par mon médecin traitant de l'époque, alors que j'étais en couple avec un jeune homme possessif, jaloux et violent. J'ai ensuite consulté après la perte de mon bébé pour surmonter mon deuil périnatal et j'ai consulté à d'autres reprises pour aller à ma rencontre et mieux me connaître sans pour autant être en proie à la dépression. Ne plus garder mes problèmes secrets m'a aidé à découvrir mes blessures et j'ai pu commencer un processus de guérison. J'ai ainsi pu comprendre certains de mes schémas et les dépasser et les briser. Chercher un traitement n'est pas un signe de faiblesse, je le répète à volonté. Mais penser et dire que les femmes qui ont des problèmes de santé mentale sont tout simplement faibles n'est pas acceptable. Mais admettre que l'on a besoin d'aide, se dire « j'ai besoin d'aide » et obtenir cette aide montre à quel point vous êtes vraiment forte. Il est temps de briser la stigmatisation de la dépression chez les femmes de manière générale et chez les femmes noires. Je vous invite à partager ce podcast et à faire passer le mot, afin qu'ensemble, nous puissions envoyer un message clair qui est de dire que nous refusons de souffrir en silence. Voilà, on arrive au terme de ce 5e épisode. Je suis ravie d'avoir pu livrer un peu de moi. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, c'est la dernière ligne droite de confinement. Donc, restons encore un peu chez nous et tout se passera bien. Voilà, je vous embrasse. À très vite.